Culture d'Islam par Abdennour Bidar. Bonjour à tous, c'est dimanche après-midi, c'est France Culture, c'est Culture d'Islam dans lequel je reçois aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu Guider pour Le Retour du Califat. C'est seulement le titre du livre. On commence avec l'ensemble Al-Kindi, des parfums ottomans. Des parfums ottomans, c'est un prélude instrumental. Que nous écoutons ici, certains nous sont familiers hein, depuis quelques mois dans Culture d'Islam. On a un riq, c'est un instrument de musique de percussion classique, très répandu au Moyen-Orient depuis l'Antiquité. Sur France Culture. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Guider. Bonjour.
Bonjour.
Mathieu Guider, vous êtes professeur des universités, vous êtes agrégé d'arabe. Vous avez été tour à tour professeur résident à l'école spéciale militaire Saint-Cyr, de Saint-Cyr, puis professeur détaché à l'université de Genève, avant d'être nommé professeur d'islamologie à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'un professeur d'islamologie? Dites-nous.
Un professeur d'islamologie, c'est un professeur qui enseigne aux étudiants l'étude de l'histoire de la civilisation musulmane, et en particulier du droit musulman, de ses applications, des courants islamiques, à la fois chez les différentes doctrines, et de la manière dont ces courants ont évolué dans l'histoire.
Alors vous avez publié, vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, hein, déjà une œuvre considérable derrière vous, mais peut-être encore plus à écrire.
Hein. J'espère bien, si Dieu me donne la vie, j'espère...
Est-ce que vous avez ce sentiment, vous aussi, quand vous terminez d'écrire un livre, de ne pas avoir commencé d'écrire encore?
Eh bien, c'est vraiment le sentiment de tous ceux qui vous connaissent, vous qui avez écrit également un certain nombre de livres, le savez. C'est un désir de mettre sur le papier, parfois de répondre à des questionnements personnels, parfois de répondre à des questionnements de personnes qui ont la gentillesse de vous lire. Mais effectivement, c'est une faim insatiable de faire quelque chose. Je le compare souvent à cette création-là, à ce que font les femmes lorsqu'elles enfantent en réalité. On porte un livre en soi et on n'arrive plus à dormir vraiment tout à fait.
Tout à fait.
Et on n'arrive pas, il faut l'écrire, il faut, peu importe, en tout cas il faut le mettre sur le papier.
Tout à fait.
Et à la fin on est soulagé.
Et on précise, hein, parce que ça va encore mieux en le disant, que les femmes écrivent aussi des livres.
Tout à fait, les femmes elles ont l'avantage sur nous d'écrire non seulement des livres, mais de faire aussi des enfants, ce qui est un avantage considérable.
Voilà, donc à chaque nouveau livre, la joie et l'humilité d'un éternel recommencement. Donc je disais que vous avez publié une trentaine d'ouvrages, notamment, alors bon, vraiment, entre autres, hein, l'Atlas des pays arabes chez Autrement en 2015, Un état du monde arabe chez Debeuc en 2015, et puis ce livre pour lequel je vous reçois aujourd'hui, c'est chez Gallimard, dans la collection Le Débat, ce livre qui a pour titre Le retour du califat. Le retour du califat, c'est-à-dire que, et d'ailleurs on discutera du titre lui-même, du côté de... Alors, spontanément, j'aurais tendance à dire du côté du pseudo-État islamique, hein, du côté de Daesh, il y a cette prétention à incarner ou à instituer un nouveau califat et donc de s'inscrire dans une histoire dont vous dites bien que, je parle de l'histoire du califat, elle est en terre d'islam millénaire. Et je crois qu'il faut commencer par là. C'est ce que vous faites d'ailleurs dans le livre, hein, c'est-à-dire que vous commencez par rappeler la longue histoire du califat en islam, par exemple en disant ceci. Il n'est pas exagéré d'affirmer que les musulmans n'ont jamais vécu sans calife jusqu'au début du XXe siècle. Même si l'institution califale a connu des hauts et des bas, des figures emblématiques et des représentants peu glorieux, il a toujours existé une autorité temporelle et spirituelle pour les diriger à la suite de Mahomet, le mot calife signifiant précisément en arabe à la fois héritier et successeur du prophète. Et vous vous lancez donc ensuite dans une présentation relativement exhaustive, me semble-t-il, des califats qui se sont succédés au Moyen-Orient, à travers au Moyen-Orient et également au Maghreb, hein, jusque dans l'Espagne andalouse, au plus occidental. Et vous distinguez notamment un certain nombre de grandes heures ou de riches heures des différents califats à partir de ce que vous appelez les califats d'Orient, Damas, Bagdad et le Caire. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu rapidement, d'abord justement, de ces trois grands califats orientaux, s'il vous plaît?
C'est une réalité historique que les musulmans n'ont jamais vécu sans calife jusqu'en 1924. Il faut rappeler les origines de cette institution. À la mort du prophète Mahomet, se réunissent un certain nombre de ses compagnons et pour lui choisir un successeur. Or, successeur en arabe se dit calife, khalifa. Et c'est en faisant ce choix-là, leur choix va se porter au début sur son compagnon le plus proche, qui s'appelle Abu Bakr. Et Abu Bakr Siddiq va être le premier calife pendant 2 ans et il va ensuite décéder. C'est le seul calife qui d'ailleurs décédera de mort naturelle. Par la suite, d'autres compagnons vont lui succéder en attendant que lui succède son cousin, son gendre également, Ali, qui sera à l'origine du schisme majeur à l'intérieur de l'islam. Mais on a déjà une première période que les musulmans sunnites appellent les califes bien guidés, Khulafa ar-Rashidun. Cette période dure une trentaine d'années, jusqu'en 661.
Qu'est-ce qui leur fait mériter ce titre de Khulafa ar-Rashidun, c'est-à-dire bien guidé ou bien inspiré?
Alors, il faut d'abord préciser que ce titre-là de calife bien guidé est valable uniquement chez les musulmans sunnites.
Certes, ils sont majoritaires. Parce que vous l'avez signalé, dès le départ, il y a une querelle de succession se cristallise autour de la personne de Ali.
Tout à fait, mais il faut savoir que chez les musulmans chiites, depuis ce schisme-là, ces califes ne sont pas considérés comme bien guidés. Bien au contraire, jusqu'à aujourd'hui, il y a même des insultes à l'égard de ces califes-là qui considèrent comme des usurpateurs du pouvoir qui aurait dû revenir à Ali dans l'optique de l'islam chiite. Mais du point de vue sunnite, ces califes sont considérés comme bien guidés parce qu'ils ont réussi, du point de vue sunnite, à instituer la communauté musulmane qui aurait pu se perdre après la mort du prophète. Il ne faut pas oublier que dès la mort de Mahomet, la communauté va se scinder en deux. Il y en a un certain nombre qui vont apostasier et il va y avoir une guerre interne à l'islam, une guerre civile qui va être globalement contenu sous Omar, le deuxième calife. Mais cet aspect-là d'avoir réunifié les musulmans, d'avoir pu instaurer une sorte de justice qui va donner à ces califes le fait qu'ils étaient bien guidés, bien évidemment sous-entendu bien guidés par Dieu, par l'esprit de Dieu, par la volonté divine qui leur a permis de d'unifier la communauté musulmane et de faire propager l'islam dans le reste du monde.
Alors, on se représente bien que lorsque vous rappelez que dans l'histoire de l'islam au long cours, le califat a été une réalité à partir de ces quatre premiers califes bien guidés. Et puis ensuite, notamment à travers les grands califats dont on va parler tout à l'heure, jusque au califat ottoman, c'est 1923, hein, 1924,
24,
hein, la fin du califat ottoman. Lorsque vous rappelez cela, il y a un enjeu. Et cet enjeu, en rappelant le nouage ancien et à peu près permanent dans l'histoire de l'islam, le nouage entre le religieux et le politique, le théologique et le politique, eh bien, vous vous inscrivez dans un débat entre ceux qui considèrent que la référence au califat est une référence à une sorte d'imaginaire, hein, à quelque chose qui aurait été mythifié, mais qui ne correspondrait pas nécessairement à une réalité historique ou à toute la réalité historique qu'on voudrait lui donner, et ceux, au contraire, et manifestement, là, c'est l'approche que vous choisissez, qui rappelle que eh bien, ce nouage du théologico-politique a été une constante à peu près permanente, hein, dans l'histoire de l'islam, créant des problèmes inhérents, justement, à ce nouage.
C'est exactement cela. La problématique de fond, c'est celle de la relation entre le politique et le religieux. Comment se noue cette relation dès la mort du prophète Mahomet et par la suite sous les différents califats successifs. La réalité historique est indéniable. Le débat qui naît autour de la mythification du califat est un débat sur l'institution idéale qu'avaient pensé les théoriciens du califat et la réalité du pouvoir. Effectivement, si l'on regarde la théorisation de ce pouvoir califal, de l'institution califale, dans les traités, que ce soit au début du califat ou que ce soit au Moyen-Âge, c'est vrai qu'on est très loin de la théorie, entre la théorie qui a été faite du pouvoir et la pratique, l'exercice du pouvoir. Ça, il est clair. Mais si l'on regarde les califes, ceux qui ont vraiment porté en leur temps le titre de calife, les dynasties, on a indéniablement une institution califale qui a existé, qui a exercé un pouvoir, qui a dominé, qui a inscrit une véritable empreinte dans l'histoire musulmane. Il ne s'agit pas, on ne parle pas ici d'un mythe. Oui. Je veux dire, le califat a vraiment existé.
Et quelle que soit ensuite la pratique du pouvoir, hein, et quelle que soit son inspiration, elle peut être par exemple machiavélienne, hein, comme elle l'est souvent. Eh bien, quelle que soit cette pratique, ce sur quoi me semble-t-il vous insister, c'est sur le recours au théologique et à la succession du prophète comme instance de légitimation ou d'auto-légitimation de ce pouvoir. C'est-à-dire que vous insistez sur la pérennité du mécanisme, ouais. C'est-à-dire sur la façon dont le pouvoir a cherché à se légitimer en autorité, dont le pouvoir temporel a cherché à se légitimer à partir de la référence à une autorité spirituelle.
C'est exactement cela, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est, jusqu'à l'époque moderne, on est dans une problématique de légitimité. Qu'est-ce qui légitime le pouvoir ? Et jusque-là, que ce soit en Orient ou en Occident, la légitimité du pouvoir vient de Dieu. Elle ne vient pas du peuple. On n'est pas encore dans le système de la pensée démocratique. On n'est pas encore entré ni dans l'esprit des Lumières, ni dans l'esprit de la volonté du peuple, ni dans l'émanation du pouvoir du peuple. On est encore dans une légitimité du pouvoir par Dieu, qui soit une monarchie de droit divin dans le cadre occidental, soit dans le cadre oriental, dans le cadre d'un califat. Le califat, en réalité, est l'expression de la légitimité du pouvoir dans l'époque pré-moderne, telle qu'elle a été dans le contexte musulman. Elle a un avantage majeur, c'est ce qui fait que j'ai montré ces relations entre les deux, c'est que pour les musulmans, et c'est l'enjeu contemporain aujourd'hui, pour les musulmans, cette autorité a permis d'avoir un islam officiel.
Alors, on ne va pas aller trop vite jusqu'au présent. Néanmoins, là, me semble-t-il, on a une opportunité de poser une première question très actuelle à propos de ce que vous appelez un enjeu contemporain. Vous dites bien, c'est ce que vous venez d'expliquer, que ce mode de légitimation du politique par le religieux est un mode de légitimation prémoderne. Bon. Comment donc interpréter aujourd'hui ce qui se passe du côté de ce soi-disant État islamique et du côté de Daesh, qui propose à nouveau, d'où le terme de retour sans doute que vous employez, hein, le retour du califat. Donc comment interpréter ce retour à un mode de légitimation prémoderne dans un univers contemporain qui n'envisage de légitimation légitime du politique, pardon pour le pléonasme, hein, c'est-à-dire de légitimation possible du politique que par le recours à la souveraineté populaire, à la démocratie, ou tout au moins au jeu du pluralisme politique et des oppositions politiques.
Il y a trois points que vous soulevez. Le premier, c'est la question de la légitimité du pouvoir par le suffrage universel ou par le peuple. Elle n'est pas spécifique à l'État islamique. Cette revendication du califat n'est pas spécifique à l'État islamique. Je retrace dans le dernier chapitre les tentatives, les différents partis qui se revendiquent de ce califat, qui veulent le retour à ce califat. Et donc on n'est pas uniquement dans une problématique spécifique à l'État islamique. L'État islamique récupère le concept et le met au goût du jour, mais c'est une revendication ancienne. Sur le fond de cette question, je crois que c'est parce que les sociétés arabo-musulmanes ne sont pas encore entrées dans le cadre de la légitimation populaire du pouvoir. Le printemps arabe qui aurait pu être ce début d'entrée dans la légitimation de la souveraineté populaire a globalement échoué dans un certain nombre de pays jusqu'à présent. Mais on est encore dans des sociétés où la légitimité par le divin, par le sacré est très forte. Nous ne sommes pas dans des sociétés qui sont sorties du religieux. Elles n'ont même pas encore enclenché une sortie du religieux, pour différentes raisons sur lesquelles on peut revenir, historique, coloniale, sociologique, mais on n'est pas dans des sociétés, et ça c'est très important à voir par rapport aux sociétés arabo-musulmanes, nous ne sommes pas dans des sociétés qui ont enclenché leur sortie du religieux.
Alors, deux questions justement à ce propos, pourquoi et quand ? La première que vous avez simplement abordée, j'aimerais que vous l'expliciter un petit peu, hein, Mathieu Guider. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Le retour du califat, hein, c'est chez Gallimard, c'est cette année, 2016. Pourquoi ? Comment se fait-il qu'on observe du côté des sociétés arabo-musulmanes ce retard ? Et la notion même de retard est-elle juste ? Est-ce qu'il y a... Alors là, la question est évidemment plus générale, hein, mais je pense que c'est sur ce fond d'écran qu'il s'agit de s'interroger. Est-ce qu'il y a une téléologie ou une finalité des sociétés humaines à entrer dans l'âge démocratique ? Et est-ce qu'il y a là un universel qui va finir par s'imposer ? Et donc, à ce moment-là, la question du pourquoi, c'est-à-dire la question d'un éventuel retard, rejoint la question du quand. Hein, donc, à quel moment est-ce que, sans faire de prédiction, mais dans une perspective prospective, eh bien, à quel moment, une fois que quelles conditions auront été réunies, une fois que quels blocages auront été levés, on peut espérer, hein, la question kantienne, que nous est-il permis d'espérer, on peut espérer que les sociétés arabo-musulmanes entrent dans le champ et l'ère du pluralisme démocratique et du suffrage universel.
Alors, grande question, effectivement. Je crois que l'histoire du califat que je retrace montre que c'est une question de rapport de force en réalité. Je ne crois pas qu'on est dans une logique de l'histoire, de la marche de l'histoire ou de la fin de l'histoire ou même de l'horizon indépassable de cette histoire. C'est une question de rapport de force qui s'est établie très tôt, à l'intérieur de l'islam même, entre les tendances, on va dire, sécularisantes ou qui essayent de se séculariser et les tendances théologisantes ou qui insistent sur la sacralité. Et je rappelle un tournant peut-être important dans cette histoire du califat. Elle intervient à l'âge d'or de l'islam, elle intervient au 9e siècle. À cette époque-là, c'est le moment référent des mille et une nuits. Hein. C'est vraiment à l'époque du calife qui s'appelle Harun Rashid. Nous sommes à la fin du 9e siècle et au début de son fils, en particulier Al-Ma'mun, qui est considéré comme le plus grand calife musulman à cause de sa libéralité, de son rationalisme, de sa promotion des sciences. C'est là où va être faite ce que l'on appelle la maison de la sagesse. Oui. Eh bien, à cette période-là, l'islam officiel, l'islam dominant, de la dynastie dominante pendant une cinquantaine d'années, pendant un demi-siècle, eh bien c'est un courant qui a quasiment disparu aujourd'hui, qui s'appelle le mu'tazilisme. C'est un courant qui n'est ni sunnite ni chiite. Et le mu'tazilisme, ce sont des penseurs. C'est une religion d'État qui a été imposée de force pendant une cinquantaine d'années. Et que disait cette religion d'État? Elle disait une chose fondamentale, que l'on retrouve plus jamais aujourd'hui, que le Coran était créé. Et le fait de dire que le Coran était créé, c'est-à-dire qu'il a été presque créé par des hommes, qu'il n'est pas exactement la parole de Dieu, eh bien, cela permet une différence complète, c'est-à-dire d'envisager le pouvoir sous une forme complètement non théologique, d'envisager une sorte d'exercice du champ politique qui est complètement différente, qui est plus rationnel. Eh bien, ce courant-là va perdre au bout d'une cinquantaine d'années. Il va y avoir un tournant en 850 et on va rentrer dans l'ère de ce qu'on appelle l'acharisme, qui est véritablement l'orthodoxie sunnite que l'on connaît encore aujourd'hui.
On l'a dit, les mu'tazilites font partie des grands battus de l'histoire de l'islam, pas seulement sur le plan politique, mais parce que c'est l'autre plan sur lequel ils faisaient valoir l'exercice de la raison et la rationalité, sur le plan philosophique et sur le plan de la culture en général.
Ils étaient aristotéliciens, ils s'étaient inspirés énormément de la philosophie grecque. Si je rappelle cet épisode, c'est pour dire que ce n'est pas une question de marche de l'histoire, c'est un rapport de force interne à chaque civilisation. Mm-hmm. C'est un rapport de force interne à chaque civilisation. Il se trouve que par une chance extraordinaire, dans la civilisation occidentale, à l'époque des Lumières, les penseurs des Lumières, les penseurs sécularisants, les Voltaire, les Montesquieu, les Diderot et les D'Alembert, eh bien, ceux-là ont gagné la bataille idéologique et ont pu écarter du champ de la pensée politique, ont pu écarter de l'exercice du pouvoir. Mmh. Ils ont pu écarter cette sacralité et ce divin pour le restreindre au champ spirituel. Dans le cadre musulman, à chaque fois qu'il y a eu cette tentative-là, quelques grandes dates, que ce soit chez les mu'tazilites, que ce soit chez l'averroïsme, qui va donner un courant philosophique en Occident très important, mais qui ne va rien donner dans le monde musulman. Il va être tué dans l'œuf. Averroès va avoir un auto-da-fé. On va redécouvrir ses œuvres au XIXe siècle grâce à la Sorbonne, grâce aux travaux des orientalistes français. Et donc, à chaque fois qu'on a eu une lutte, une bataille, un rapport de force entre, on va dire, les rationalistes et les religieux, pour simplifier, eh bien, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent en tout cas, le rapport a été du côté des religieux, jusqu'à récemment d'ailleurs, même le printemps arabe, il a tourné en faveur des islamistes, c'est-à-dire de ceux qui sont pour l'interférence du religieux dans le politique. Et donc, pour ma part, je pense qu'il ne s'agit pas d'une question d'histoire à quand les sociétés musulmanes, mais quand est-ce que le camp, ce camp très ancien qui existe, qui est profond dans la civilisation musulmane, quand est-ce qu'il pourra véritablement l'emporter sur l'autre camp des penseurs, on va dire, orthodoxes ou ultra-orthodoxes ou traditionnalistes, je n'en sais rien. C'est une bataille vraiment de tous les jours. Elle est menée par des hommes et des femmes dans tous les pays arabes aujourd'hui, dans tous les pays musulmans. C'est une bataille qui est soutenue par beaucoup d'intellectuels en Occident, dont vous faites partie d'ailleurs. Je vous salue à cet égard. Mais qui n'est pas gagnée aujourd'hui, qui n'est pas gagnée. Parce que les masses ne sont pas encore dans cette lutte.
Alors, peut-être pour donner une chance supplémentaire à cette lutte pour les droits de la raison, revenons à notre examen de l'histoire. Et je voudrais que nous soyons un peu précis pour nos auditeurs, parce que le premier intérêt de votre ouvrage, je redonne son titre, Le retour du califat, Mathieu Guider, c'est que il nous fournit un panorama complet, en tout cas vraiment très complet, on n'est jamais exhaustif, mais un panorama très complet des principaux califats qui se sont succédés au cours de l'histoire. Alors si vous le permettez, pour que nos auditeurs les idées claires à ce sujet, parce que quand on dit les califats dans l'histoire de l'islam, j'imagine que c'est assez vague dans l'esprit de beaucoup. Je voudrais présenter, comme vous le faites, en vous citant donc les trois principaux califats d'Orient. Voilà ce que vous dites. Il y a eu trois grands califats distincts et durables au Proche-Orient. Le premier est celui de Damas, appelé califat Omeyyade. Il tire son nom de l'ancêtre commun de la dynastie, Omayya, qui était le grand-oncle du prophète. Les Omeyyades établissent la capitale de leur califat en Syrie à Damas, et règne sur l'ensemble du monde musulman entre 661 et 750 de notre ère. Leur étendard est de couleur blanche. Le fait mérite d'être signalé, hein, puisqu'ensuite le noir va se mettre à prévaloir. Justement, le deuxième califat est celui de Bagdad, appelé califat abbasside. Il tire son nom de l'ancêtre commun de la dynastie, Abbas, oncle du prophète. Les abbassides transfèrent le califat en Irak et règnent sur une grande partie du monde musulman entre 750 et 1258. Leur étendard est de couleur noire. Le troisième califat est celui du Caire, établi sous les Mamelouks d'Égypte, qui sont des anciens esclaves affranchis, qui recueillent le dernier descendant des Abbassides et le proclament calife. Sous son autorité formelle, il règne sur le Proche-Orient et l'Arabie entre 1261 et 1517, date de la conquête de l'Égypte par les Ottomans. Alors là, on a les idées un peu claires, et au sujet du second califat, le califat de Bagdad, le grand califat des Abbassides, qui correspond à ce que vous avez appelé tout à l'heure un moment d'âge d'or, apparaît ce qui va devenir ensuite la problématique fondamentale autour du califat. Voilà comment vous la présentez. Vous dites que pendant cette première période du califat abbasside, hein, je situe, on est entre 750 et 850, on est à cheval entre le 8e siècle et le 9e siècle, eh bien, il y a eu pour ce califat une instabilité chronique, dites-vous, des insurrections incessantes. Pourquoi ? Parce que, je vous cite, le fait que ces califes abbassides, porte-drapeau du sunnisme, ont persisté à vouloir fonder l'unité et l'autorité du califat sur la religion, eh bien c'est cela qui n'a fait que multiplier les sectes et les mouvements hérétiques.
Oui, c'est le paradoxe. En fait, c'est un tournant parce qu'en plus, c'est l'âge d'or. C'est ce que les musulmans considèrent comme l'âge d'or du califat.
Oui.
Et pendant cet âge d'or-là, les califes abbassides, qui sont de grands califes, ils ont régné 7 siècles sur l'islam, vont chercher un principe d'unité. Vous êtes dans un empire. Il faut peut-être rappeler qu'à l'époque, l'empire musulman s'étend de l'actuel Pakistan jusqu'en Espagne, jusqu'en Espagne musulmane.
Prodigieux.
C'est énorme, il faut imaginer ce que c'est. Et donc, au début, ces califes vont chercher un principe d'unité. Sur quoi peut-on fonder l'unité de cet ensemble considérable entre qu'est-ce qui unit un Afghan, un Pakistanais, un Égyptien, un Saoudien aujourd'hui, un Tunisien et un Espagnol, pour ainsi dire, un Visigoth.
C'est-à-dire des différences de culture, voilà.
Des différences de
mode
culture,
de vie.
De langue, de mode de vie, de tradition, d'ethnie, de tribus, tout cela. Et à ce moment-là, ils ne vont trouver qu'une seule chose, ils vont vouloir réunifier ce monde musulman-là sous le critère de l'identité religieuse. Mais en voulant faire cette identité religieuse, il fallait faire des choix, et ils vont faire, chaque calife, en quelque sorte, va faire un choix d'identité religieuse. Mmh. Cette identité religieuse correspondant à une école précise ou à une branche de l'islam, à une secte de l'islam parfois, qui va créer encore plus de sectes, encore plus de divisions, et qui va conduire dans beaucoup de cas à des guerres des religions internes à l'islam sous différentes dynasties. Et depuis, en réalité, si vraiment on le regarde de près, en dehors des périodes de paroxysme, c'est-à-dire de la puissance de ces califats, ça a été toujours la problématique où on essaye de réunifier les musulmans sur un courant, une doctrine. Il y a une rébellion, il y a une fitna, une scission, il y a une division, des guerres de religion, et puis on repart de nouveau dans un autre califat.
Alors, la concurrence historique des califats. Hein, la sécession historique de petits califats par rapport au grand califat. Hein, vous parlez de cette période, vous dites que la proclamation du califat de Cordoue du côté occidental va être la conséquence de l'affaiblissement de ce califat abbasside dont on parle et du fait qu'il est concurrencé lui-même par le califat fatimide, donc un troisième califat qui apparaît, donc cette concurrence de l'autorité califale. De là un affaiblissement, et on a l'impression, et qui est confirmé en vous écoutant, Mathieu Guidert, que le problème est dans la solution. Et il y a là comme une forme de cercle vicieux à l'intérieur duquel la civilisation arabo-musulmane va tourner, parce que le problème est dans la solution, au sens où on va chercher du côté du religieux un vecteur d'unification, mais cette solution offerte par le religieux qui semble transcender toutes les différences qu'on a évoquées de mode de vie, de culture, de langue, etc., eh bien, pose à son tour des problèmes absolument considérables, puisque le magistère religieux est revendiqué par les uns et les autres à travers des... Alors évidemment, la fameuse scission d'abord entre chiisme et sunnisme, mais aussi à travers tout un ensemble d'hérésies. C'est-à-dire, dès qu'on va chercher du côté du religieux ce qu'on croit être la solution, c'est-à-dire un vecteur d'unification un transcendantal, hein, ou quelque chose qui transcende les différences, on ne fait qu'aggraver les choses.
En réalité, ce n'est pas tellement le fait de... Quand on regarde l'histoire de ces califats, justement, ce n'est pas tellement le fait d'avoir la revendication religieuse de l'identité religieuse, c'est plutôt la politisation de l'identité religieuse à un moment donné de l'histoire. Vous avez mentionné ce dixième siècle, extraordinaire dixième siècle, où on a, sur une période, plus d'un siècle, la coexistence de trois califats en même temps, c'est-à-dire de trois califes qui se réclament comme les seuls uniques représentants légitimes de l'islam. Vous avez un calife à Bagdad, vous avez un calife au Caire et vous avez un calife à Cordoue. Au même moment, et ces trois califats se disputent le leadership du monde musulman, se disputent la prééminence, se disputent la légitimité, se disputent la vérité de l'islam. Et qu'est-ce qui fait à ce moment-là le problème n'est pas tellement dans le fait qu'ils mettent en avant une identité religieuse. Le problème, c'est qu'ils mettent, ils politisent cette identité religieuse. C'est-à-dire que le califat, par exemple, de Cordoue va dire le seul islam légitime, c'est l'islam sunnite malikite. Et il va l'imposer de force. C'est ce qui va faire l'unité du Maghreb, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, depuis ce califat de Cordoue, on a un Maghreb à 98% malikite. sunnite malikite. Ce qui va faire également en Égypte, c'est que la dynastie des Fatimides, le califat fatimide, qui va quand même durer de 909 en Tunisie, puis après en Égypte jusqu'à 1171, sur quasiment deux siècles, eh bien ce califat, ce n'est pas tellement la revendication de l'identité religieuse, c'est le fait, sa politisation, c'est le fait qu'ils disent la seule identité religieuse valable, c'est celle de l'islam chiite descendant de Fatima, qui est la fille du prophète. Et puis vous avez Bagdad, qui reste sur une thématique que le seul islam valable, valide, c'est l'islam sunnite, de dogme acharite. À ce moment-là, face à cette politisation de l'identité religieuse, on a une confrontation, on a des luttes, on a des guerres internes, c'est-à-dire le califat de Cordoue va lutter contre le califat fatimide. Le califat fatimide va même aller jusqu'à envoyer l'un de ses vizirs qui va prendre Bagdad. Il va y avoir une lutte entre le califat de Bagdad et le califat abbasside. Et donc, en réalité, c'est la politisation de l'identité religieuse parce que pendant ce temps-là, et on le sait à travers les sources, le peuple ne se rendaient même pas compte, parfois, en réalité, les musulmans, ceux que les théoriciens appellent la Oumma, les musulmans ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient passés, par exemple, du sunnisme de type oriental au sunnisme malikite, ou que l'Égypte était passée du sunnisme vers le chiisme, puis vers le sunnisme avec les Ayyoubides, ou que à Bagdad, imaginez que le calife était un calife sunnite, et le grand vizir, les Bouïdes, étaient des chiites imamites. Et donc, on avait la gestion de l'État qui se faisait de type chiite, et vous avez le calife qui était sunnite, et vous avez l'armée qui était des Turcs, qui était sunnite hanafite. Donc, on était dans une, si vous voulez, l'élite qui a politisé cette religion, a fait le problème, en réalité, de la sacralité. Mais les musulmans eux-mêmes, c'est-à-dire cette masse que les historiens musulmans appellent la masse, eh bien, qui n'est pas encore le peuple, parce qu'elle ne s'exprime pas dans cette histoire-là, n'a pas conscience de cela et n'est pas dans la politisation de cette identité religieuse.
Alors, elle ne l'est pas. Il n'empêche que pour la Oumma, c'est-à-dire en direction de la Oumma, l'institution califale a cherché à assurer le prestige de sa représentation d'elle-même comme une autorité issue de l'autorité du prophète. C'est-à-dire que il y a eu un fantasme durable qui a été créé, qui a été entretenu pour s'attacher, je dirais, la docilité des masses, hein, ou l'obéissance des foules. Et c'est là-dessus, me semble-t-il, que encore aujourd'hui, ce pseudo-État islamique joue, c'est-à-dire sur la puissance d'attraction de ce mythe d'un califat qui assurerait l'unité d'une autorité spirituelle et d'un pouvoir temporel. Et par rapport à ça, ma question est la suivante. Quelle est aujourd'hui la puissance d'attraction de ce mythe du califat sur les masses arabo-musulmanes ? premièrement. Et deuxièmement, dans quelle mesure et à partir de quel argument on peut rétorquer au pseudo-État islamique que, quelles que soient ses prétentions, il ne s'inscrit pas dans ce qu'on pourrait appeler la grande histoire du califat en islam.
Alors sur le premier point d'abord, c'est-à-dire dans quelle mesure il est attractif, on peut dire qu'il est attractif si l'on croit le nombre de soldats du califat qui apparaissent un peu partout, qui se prénomment ainsi, hein, qui s'appellent ainsi soldats du califat, le nombre de provinces du califat qui ont été instituées depuis un an et demi, c'est considérable, c'est une montée en puissance fulgurante, c'est du jamais vu. Et donc, on peut
c'est
dire.
C'est du jamais vu, vraiment.
C'est du jamais vu, cette fulgurance d'adhésion.
D'adhésion.
Il faut savoir que lorsque Ben Laden restaure l'idée du jihad qui avait quasiment disparu, le jihadisme avait quasiment disparu dans les années 70-80, lorsqu'il le restaure, il va mettre à peu près 30 ans pour avoir vraiment des branches jihadistes un peu partout, c'est-à-dire Al-Qaïda en péninsule arabique, Al-Qaïda au Maghreb, Al-Qaïda un peu partout. Eh bien, le pseudo-calife en question va mettre un an et demi, c'est-à-dire depuis la déclaration du califat le 29 juin 2014 jusqu'à aujourd'hui, ça fait un an et demi à peu près, on va être bientôt deux ans, il a à peu près, il a plus de branches aujourd'hui et plus d'adhérents que Al-Qaïda avec son jihad. Et donc cette attractivité est fondamentale. Ouais. Mais pourquoi elle est fondamentale? C'est parce que le califat a été redéfini, rebaptisé dans cet esprit-là, dans ce discours important de Mossoul de l'instauration du califat, comme l'unité musulmane. En fait, le califat est devenu le synonyme de l'unité. Or, l'unité est une valeur fondamentale dans la théologie et dans la pensée musulmane, l'unité de la Oumma, l'unité de ces musulmans. La seule question, en réalité, que pose le calife en question, c'est comment parvenir à cette unité. Et c'est ce qui fait aujourd'hui sa relative faiblesse idéologique. Parce que l'idée du califat, on en a pour 30 ans. On en a pour 30 ans pour éventuellement essayer de la dépasser. C'est de savoir comment on arrive à cette unité. Vous avez deux courants à l'intérieur de cette pensée califatiste. Mm-hmm. Vous avez un courant qui est plutôt fédéraliste, qui a été dit par Abou Bakr al-Baghdadi lui-même, qui vise une fédération musulmane. C'est-à-dire qu'il veut arriver, il l'a dit, l'expression n'est pas de moi, aux États-Unis islamiques. Et puis, vous avez un autre courant qui est représenté par son vice-calife. Il y a son Naeb qui est déjà désigné, qui est un courant plutôt confédéraliste, qui est plutôt pour ce qu'il appelle l'union islamique. En quelque sorte, nous avons aujourd'hui, à l'intérieur de cette pensée califaliste qui est pan-islamiste, on a deux courants. Un courant qui est plutôt pour une union des musulmans sur le modèle des États-Unis d'Amérique. Il y a un autre qui est sur le modèle de l'Union européenne, avec d'un côté, on supprime toutes les frontières, c'est ce qu'a fait le calife entre l'Irak, la Syrie, et il supprime systématiquement les frontières pour unifier une unification territoriale avec une implantation territoriale. Et vous avez un autre courant qui est récupéré aujourd'hui par Al-Qaïda et par tous les gens qui étaient Al-Qaïda, qui sont plutôt pour le maintien des États globalement dans leurs frontières existantes, mais quand même pour une unification de ces États, pour avoir une autorité qui est celle du calife. Mmh. Et donc cette idée-là, l'idée d'unification, et c'est là où je réponds à votre deuxième question, pour la contrer, ça va être très compliqué, parce qu'il faut un projet politique. Aujourd'hui, on ne peut pas contrer cette idée, qui est une idée d'unification. C'est comme si on voulait contrer l'idée de l'Union européenne en 1945 par des bombardements. Bien évidemment, on peut détruire éventuellement le califat en question, on peut détruire l'organisation en question, mais l'idée elle-même ne peut être combattue que par une proposition politique, par une autre idée, c'est-à-dire que par un projet politique pour tous ces pays-là qui aspirent, qui ne comprennent pas des choses toutes simples. Pourquoi il faudrait un visa entre les pays arabes entre eux, alors qu'il n'y a pas de visa entre les pays européens, il n'y a pas de visa entre les 51 États américains? Pourquoi il n'y aurait pas un espace Schengen commun? Pourquoi il n'y aurait pas une communauté économique comme il y en a eu au début? Pourquoi il n'y aurait pas un plan Marshall des riches musulmans vers les pauvres musulmans? Enfin, il y a beaucoup de questionnements.
Mais alors, ce que vous dites montre que, quel que soit ce qu'on peut penser de l'imposture de cet État islamique, d'une certaine façon, il se sert des défaillances aujourd'hui de la gouvernance des sociétés arabo-musulmanes.
C'est exactement ce qui fait qu'il n'est pas battu 2 ans après. Cette organisation domine depuis plus de 2 ans un territoire de 10 millions d'individus sur un territoire qui est aussi grand que la Grande-Bretagne. Et vous avez en face des coalitions majeures internationales. Il n'y a personne qui le soutient aujourd'hui. Tout le monde bombarde l'État islamique. C'est ce qui fait qu'il continue. Il a un taux de renouvellement. Les Américains ont déclaré avoir tué plus de 30 000 combattants. Depuis le début de bombardement. Eh bien, on sait qu'ils disent en même temps que l'État islamique n'a pas perdu de ses combattants, donc on a un taux de renouvellement de 100%. C'est une attractivité considérable. L'État islamique profite non seulement de ses failles, mais aussi il a planté une graine, cette idée-là, de l'unité des musulmans, de l'unité des Arabes, cette graine idéologique qu'on va avoir beaucoup de mal à déraciner à l'ère de la mondialisation, des grands ensembles politico-culturels, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, l'Inde, la Russie. Comment peut-on encore maintenir face à ce monde-là une division dans des petits États qui ne tiennent pas, qui n'ont pas de poids? Et c'est là-dessus, c'est un discours qui est répété tous les jours sur les médias sociaux, dans la télévision de l'État islamique, dans la radio. C'est un proto-État aujourd'hui qui fonctionne et qui diffuse cette propagande massivement. Et avec les 2 ans d'implantation territoriale, eh bien, il a réussi effectivement à l'implanter, cette idée-là, de façon très, très profonde.
Alors, il y a deux questions que je voudrais vous poser, Mathieu Guider, par rapport à ça. La première, c'est revenir un peu sur la question que vous posiez vous-même. Hein. Comment contrer cette proposition d'unification qui est d'autant plus séduisante qu'elle rencontre en face d'elle un vide politique, hein. Et deuxièmement, comment ce proto-État qui nous apparaît comme un État guerrier, comme un État terroriste, etc., comment ce proto-État peut-il avoir une chance de s'installer dans un projet politique durable? Hein, alors, c'est-à-dire que on a tendance à voir dans cette aventure quelque chose qui relève purement et simplement de l'imposture. Qu'en est-il? Alors, sur les deux points.
D'abord, hein, sur le second point, le fait que l'État islamique ne survivra pas en tant qu'organisation, ni en tant qu'implantation territoriale. Il est évident que lorsque vous avez le monde entier...
Que ces jours sont comptés.
Ces jours sont comptés, c'est une évidence. Simplement, ce qui est important, c'est les populations locales. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment penser un projet politique à ces populations locales, leur donner de la perspective, parce qu'il y a eu tellement de morts, il y a eu tellement de massacres, tellement d'exactions. Cette guerre est confessionnelle. C'est des chiites qui tuent des sunnites, c'est des sunnites qui tuent des chiites, des milliers. Nous sommes à près d'un demi-million de morts depuis 5 ans maintenant. Et oui. Donc il va falloir, en tout cas, même si on arrive à détruire, et on va y arriver, il va falloir un projet politique pour ces populations, pour éviter qu'elles ne basculent dans une organisation qui soit encore plus radicale, ou que cela ne se fragmente et que ça ne parte dans tous les sens.
Et pour éviter la prolifération, parce que là aussi, c'est, je rappelle le titre de votre livre, Mathieu Guider, Le retour du califat, c'est chez Gallimard. Vous faites un état des lieux de cette prolifération de l'idéologie et de la prolifération des affiliations proclamées à cet État islamique, ou des vassalités, des allégeances prononcées. Vous dites, on trouve pêle-mêle au Maroc le mouvement Justice et Bienfaisance, en Algérie Al-Qaïda au Maghreb islamique, en Tunisie et en Libye les défenseurs de la charia et la branche locale de l'État islamique, en Égypte la province du Sinaï. Tout ça, ce sont des noms d'organisations qui ont déclaré leur affiliation à ce pseudo-État islamique. En Égypte la province du Sinaï, donc en Palestine le Hamas et le djihad islamique, en Arabie Saoudite l'organisation de la rénovation islamique, au Yémen le mouvement houthiste, au Nigeria, le groupe des gens de la tradition pour l'unicité et le djihad, Boko Haram. En Turquie, l'organisation de l'État du califat. Au Pakistan, le mouvement d'application de la charia mahométane. Au Bangladesh, le conseil du califat. Ça commence à faire beaucoup. Vous mettez d'ailleurs, etc.
Oui, c'est inquiétant. Il y en a d'autres. Il y en a en fait quasiment tous les mois. On a un groupuscule ou un groupe qui déclare son allégeance et son ralliement à cette idée du califat. Donc on n'est pas face à une seule organisation. Donc même si on arrive à éradiquer l'État islamique de Syrie et d'Irak, on aura le même problème ailleurs. D'ailleurs, je pense que vous avez déjà entendu les tambours appelant à la guerre en Libye. parce que l'État islamique en Libye est vraiment sur une expansion importante, qu'on sait que probablement ça sera le prochain foyer important de l'État islamique. Et donc là, on est en train vraiment de lutter contre les symptômes. On n'a pas une stratégie, en fait, pour contrer cela. Et cette stratégie ne peut venir que de l'intérieur, des musulmans eux-mêmes. Il ne peut venir que grâce à un projet politique porté par tous ces pays-là. On en est encore très loin aujourd'hui.
Alors, on peut imaginer que sous la contrainte de la menace, hein, souvent c'est ça, je dirais, dans l'humanité ou chez l'être humain, hein, il faut vraiment attendre d'être confronté au péril maximal pour enfin réagir. Donc, on peut espérer que, quelque chose d'autre, de plus durable que les printemps arabes surgisse et face à cette menace qui est véritablement, comme vous le dites, sans précédent.
Oui, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cet enjeu civilisationnel pour le monde arabo-musulman s'est transformé en raison de l'ethnocentrisme européen et occidental en une problématique uniquement terroriste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on voit toute cette problématique du monde arabe et musulman uniquement avec le spectre et sous l'ornière presque du terrorisme, parce que nous avons des dommages collatéraux chez nous, c'est-à-dire nous avons quelques attentats de temps en temps, mais c'est le monde musulman qui, au jour le jour, tous les jours, c'est tous les jours, entre 100 et 500 morts, tous les jours, entre tous ces groupes-là qui se tuent entre eux. Et le problème de réduire le problème, cet enjeu civilisationnel dont on a parlé au début, c'est-à-dire de la relation entre le politique et le religieux, de la raison, de l'avènement de la raison dans la politique, dans la société, tout cela malheureusement est en train d'être laissé, d'être relégué au second plan, en faveur d'approches, que ce soit ici ou là-bas, d'approches sécuritaires, purement sécuritaire d'ailleurs, purement militaire parfois, qui ne prennent pas en compte les enjeux civilisationnels, parce que nous sommes dans un monde connecté, parce que les musulmans sont partout dans le monde, ils sont pas uniquement là-bas, parce que ces enjeux de civilisation nous concernent aussi, ils touchent notre mode de vie. Il faut pas imaginer que parce que le monde musulman vit cette guerre terrifiante interne, qu'on n'aura pas un impact chez nous. Bien évidemment, on est connecté, les deux rives de la Méditerranée sont trop proches pour ne pas être connectés.
Un dernier thème que j'aimerais aborder avec vous, Mathieu Guidel, qui est présent dans votre livre, c'est le thème relatif à la notion même de calife, hein, ou de khalife en arabe. Parce que vous montrez sa polysémie et la différence des registres sur lesquels ce terme s'applique, parce qu'on en parle depuis le début de notre entretien, tel qu'il est toujours utilisé, c'est-à-dire sur un plan politique, hein, comme signifiant une autorité qui serait une autorité inséparablement spirituelle et temporelle. Alors, rappelons à nos auditeurs que dans le texte coranique, la référence à cet usage, ou plus exactement cet usage lui-même politique du terme de calife, peut être trouvé par exemple, ou notamment, dans le verset 26 de la sourate 38, qui concerne le roi David. Voilà le verset. « Ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. « Ya Daouda, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. » Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion qui risquerait de t'égarer du sentier d'Allah. Mais en dehors de cette référence coranique, il y a d'autres références coraniques à une dimension plus spirituelle, de la notion de calife qui est appliquée à Adam comme étant celui qui est le représentant de Dieu sur terre. On peut aller même jusqu'à dire l'héritier de Dieu sur terre, ce qui pose théologiquement des questions, ontologiquement, métaphysiquement, des questions absolument prodigieuses. Donc on peut regretter, je ne sais pas si vous souhaitez vous aventurer sur ce terrain-là, mais que la discussion politique et l'usage politique du terme de khalif est complètement occulté ou étouffé toutes les autres interprétations possibles qui montraient que, dans le nouage de la relation entre l'humain et le divin, autour de la fonction califale, il peut y avoir autre chose que l'idée d'une autorité politique.
Exactement. Il y a les trois termes dès l'origine, en réalité. C'est une lutte entre ces trois significations. Vous avez la signification du calife comme autorité spirituelle, vous avez la signification du calife comme autorité politique, et vous avez la signification du calife comme autorité politique et spirituelle. Et c'est la question de l'autorité spirituelle, malheureusement, qui va l'emporter en raison de l'institut...
Politique
qui va l'emporter en raison, justement, de la prégnance de ces dynasties califales. Si l'on peut regretter quelque chose, c'est que, d'abord, que cet usage politique du religieux l'est emporté, c'est-à-dire que la signification politique l'ait emporté tout au long de cette histoire musulmane de 15 siècles tout de même. Et le deuxième regret que l'on peut faire, c'est qu'une fois que cette signification l'a emporté, c'est qu'on ait perdu cet islam d'État. Parce qu'en fait, l'origine, on n'a pas parlé d'un califat le plus récent, en réalité, celui de califat ottoman. Le califat ottoman a réussi à instaurer ce qu'on appelle un islam d'État. Et il n'a pu l'instaurer que parce qu'il a fait le choix de la doctrine musulmane la plus ouverte, la plus flexible, c'est-à-dire du sunnisme hanafite. L'islam de l'Empire ottoman, c'était le hanafisme. Et il a même codifié, c'est-à-dire il a fait une charia qui était hanafite, qui était opposable dans l'ensemble des provinces de l'Empire ottoman. Et c'est grâce à cela qu'il a pu être accepté dans des pays comme la Tunisie, par exemple, où les gens ils étaient plutôt de tradition sunnite, malikite, mais qui ont accepté des rois et des beys qui étaient plutôt ottomans turcs pendant plusieurs siècles. Et donc aujourd'hui, la problématique également, c'est qu'en perdant le califat, l'islam a perdu ce que le christianisme a encore grâce à la papauté, notamment. Il a perdu également cette voie d'un islam officiel, on va dire, c'est-à-dire qu'il y ait une autorité qui dise « voici l'islam que je considère comme l'islam officiel ou d'État ». Cela, on ne l'a plus aujourd'hui. Et on l'avait avec l'Empire ottoman. L'Empire ottoman a fait même une constitution qui est basée là-dessus. Il a fait une majalla. La majalla, c'est la charia. C'est la charia qui a été codifiée selon avec une adaptation au droit européen. Et aujourd'hui, on ne l'a plus, malheureusement. On n'a plus personne qui peut véritablement, parce qu'il n'a pas ce titre-là, qui peut véritablement arriver et dire « voici la version que je promeux de l'islam, voici la version que j'appelle les fidèles à suivre ». Donc on a perdu sur deux plans, sur la signification du mot et aussi sur la pratique du pouvoir.
On a perdu et on ne retrouvera probablement pas, parce que l'histoire humaine ne revient pas en arrière. Ou alors, si elle revient en arrière, souvent c'est, hélas, sous la forme de ce que Aristote appelait un dialèle, c'est-à-dire un cercle vicieux ou un cercle maudit. Mathieu Guider, je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui dans Culture d'Islam pour ce livre que je recommande, donc très instructif sur l'histoire des différents califats, depuis les califes bien guidés dont vous nous avez parlé, jusque à cet empire ottoman, à ce califat ottoman dont on n'a pas eu tellement le temps de parler, mais on a passé en revue beaucoup de choses. Merci beaucoup Mathieu Guider.
Merci de votre invitation.
On est avec l'ensemble Al-Kindi, un morceau qui a pour titre « Parfum de Damas ». C'est le Taksim Kanoun. Le Taksim, je le rappelle, qui est une improvisation. Une improvisation, une introduction. Une introduction donc là par le kanoun. Je vous rappelle que c'est un instrument à cordes pincées. Thank you. On a reçu aujourd'hui dans Culture d'Islam Mathieu Guider pour le retour du califat, le retour de cette idée historique dans l'islam, dans la civilisation musulmane, du califat, qui nous a obligés à nous interroger sur le rapport entre le passé et le présent. Et sur ce rapport entre passé et présent, je voudrais vous lire cette phrase de Platon. Cette phrase de Platon, ou ces phrases de Platon, qui disait ceci. En tout temps, les gens s'imaginent qu'il s'agit du dernier des temps et attestent de son défaut, donc de ce défaut du dernier des temps, par rapport à ceux qui le précèdent, sans accorder au passé et au présent la méditation qu'il mérite. Car, lorsqu'il compare les jeunes hommes du temps présent avec ceux dont les années et les expériences se sont accomplies dans le passé, il conclut au défaut présent des grandes vertus dans ce présent et à leur abondance dans le passé. Mais il n'observe pas les différences de circonstances et de situations des deux temps, ni la différence de leurs exigences. En revanche, s'ils s'appliquaient à cela avec justice et s'ils approfondissaient l'examen des vicissitudes des deux temps, alors ils les verraient se rapprocher. Qu'est-ce que Platon nous dit ici ? Même Platon nous dit simplement que, je vais le dire de la façon la plus simple, on a toujours tendance à penser que c'était mieux avant. On a toujours tendance à penser que, il y avait autrefois des hommes d'une valeur qu'on ne trouve plus aujourd'hui et qu'il y avait autrefois une civilisation, une qualité de civilisation et de culture qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Et Platon donc nous met en garde contre cette illusion d'optique qui consiste toujours à dénigrer le temps présent par rapport au temps passé. Évidemment, je le précise, et c'est cela que je voulais dire aujourd'hui, cela ne s'applique pas, bien entendu, à ce soi-disant retour du califat, puisque du côté du pseudo-État islamique, on a bien entendu une imposture qui n'est pas du tout à la hauteur et qui n'a même rien à voir avec les riches heures, les grandes heures des califats du temps passé, qui avaient certes leurs problèmes, qui soulevaient leurs questions, on en a parlé avec Mathieu Guider, mais qui tout de même correspondaient à des temps où il y avait de la civilisation et où il y avait de la culture, alors qu'aujourd'hui, du côté de ce pseudo-État islamique, on n'a évidemment que de la barbarie. Merci. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Mathieu Guider pour son livre paru cette année chez Gallimard, Le Retour du Califat. Vous pourrez retrouver les références du livre et puis les références des musiques que vous avez pu écouter pendant cette émission sur le site franceculture.fr. Je remercie beaucoup pour la réalisation de cette émission à la production Dominique Compétissa, à la réalisation Alexandre Fougeron et à la technique Jean-Richard Dufour. Louise Touré pour la rue des écoles.